Nous accueillons maintenant Christine au 3921. Bonsoir Christine.
Bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Très bien, merci. Bon.
Alors, de quoi voulez-vous me parler, Christine ?
Je souhaitais en fait vous parler de mon expérience personnelle en tant que mère d'un enfant schizophrène.
D'accord.
Qui a 25 ans aujourd'hui, avec une schizophrénie qui a été détectée il y a 6 ans, et donc de l'accompagnement et de tout ce qu'on peut lui apporter en tant qu'aidant, et de comment la société aussi réagit vis-à-vis de cette maladie et doit changer. Voilà. Oui.
Parce que je rappelle, avant que nous commencions, que vous évoquez la société, que cette société... entend souvent ce terme de schizophrénie ou de schizophrène employé comme une expression du langage courant, et qu'elle, quand c'est le cas, elle heurte énormément et les malades souffrant de schizophrénie et les parents, toutes les familles qui entourent ces malades. Et qu'en plus de cela, la schizophrénie est souvent évoquée dans la presse, hein, la télé, la radio, la presse écrite, que lors de faits divers sanglants, mais qu'on ne s'intéresse pas assez à cette lourde maladie mentale, qui est, je pense qu'on va le découvrir avec vous, qui est un fardeau conséquent pour les parents qui vivent cela. Votre fils a connu la schizophrénie à quel âge et dans quelles circonstances, Christine ?
Il avait 19 ans et il a eu une crise d'angoisse et de paranoïa, et il a été assez rapidement hospitalisé et pris en charge.
Ouais.
Mais certes, suite sans doute à des épisodes d'angoisse importantes et pour ce qui le concerne, à la suite, une prise aussi importante de cannabis, mais voilà, qui aurait pu être un élément déclencheur, mais qui n'était pas nécessairement tout le temps et de façon constante. Donc voilà, c'est arrivé. Il y a eu effectivement des épisodes assez violents qui ont nécessité une hospitalisation forcée.
Oui.
Voire même plusieurs hospitalisations. Il a été hospitalisé deux fois et un peu un apprentissage de cette maladie, un apprentissage de ce qu'on pouvait faire pour l'accompagner et l'apaiser. Voilà, ça touche et c'est la découverte aussi d'une maladie qu'on connaît finalement très peu.
Oui.
Effectivement, et comme vous le disiez tout à l'heure, est très souvent stigmatisé, alors qu'on se rend compte que finalement ce sont des personnes qui ont besoin de beaucoup d'aide et qui ne sont pas, il n'y en a finalement que très très peu qui sous crise ou sous des délires paranoïaques peuvent effectivement donner lieu à des faits divers un peu sanglants ou voire à des accès de violence, mais ce n'est qu'une infime partie de ces malades.
Oui, ce n'est qu'une infime partie, et je rajoute que les malades
et
ont souvent
sont
peur
en
de l'extérieur.
Plus dans ces périodes-là, très souvent en crise de démence et qui ont perdu finalement tout leur libre arbitre. Mm-hmm. C'est un peu la problématique de ces maladies, c'est-à-dire mm-hmm. que quand ils sont en crise, il peut y avoir des actes de violence qui ne ressemblent absolument pas en période où ils sont beaucoup plus calmes et maîtrisés.
Oui, et ils ont, je l'évoquais, ils ont souvent peur de l'extérieur. Hein.
Exactement, et eux-mêmes ont très peur, ils sont terrorisés, ils ont des visions, ils ont l'impression d'être attaqués, le regard de l'autre peut être extrêmement intrusif, parfois ils n'ont pas de notion de voilà, de ils ont l'impression qu'on lit dans leurs pensées, qu'ils sont totalement à nu. Et ça peut effectivement parfois entraîner des réactions violentes. Ils peuvent être habités d'idées qui ne sont absolument pas les leurs et qui peuvent entraîner des réactions violentes. Donc c'est une maladie qu'on connaît très peu. dont on parle, on commence à en parler dans les médias, mais c'est finalement assez récent. Et quand on en parle le plus souvent, c'est effectivement dans des cadres extrêmement violents où l'auteur de crimes ou de violences peut être effectivement schizophrène pour les raisons que je viens d'évoquer.
Mais pour en revenir à votre
alors
à
mon
votre
fils,
enfant,
oui.
Vous évoquiez tout à l'heure la prise de cannabis. C'est souvent malheureusement un élément déclencheur.
Alors oui, moi je veux pas absolument pas généraliser. Hein. Je parle vraiment de ma propre expérience. Voilà, il faut être très clair, les données scientifiques actuelles évoquent des causes multiples dans cette maladie. On n'est pas véritablement en mesure de savoir ni quand, ni comment, ni pourquoi il y a des maladies ou des personnes qui portent en germe cette maladie. Il y a naturellement des causes génétiques, il y a des causes environnementales. Mais quelque part ensuite, à un certain moment de l'évolution de ces jeunes, il y a un élément déclenchant qui peut être un énorme stress, une très grosse angoisse, une difficulté de passer un événement. Et où, parfois, mais c'est aussi lié à des angoisses, la prise de cannabis qui naturellement permet de calmer ces angoisses. Donc moi, pour ce qui me concerne, effectivement, mon fils était un consommateur assez régulier de cannabis et c'est vrai que c'est un élément très souvent déclencheur en tous les cas de cette maladie à ces périodes de leur vie.
Il en consommait à quelle fréquence du cannabis?
Alors, je n'étais pas derrière lui, mais en tous les cas, c'était naturellement quotidien. Après, ça pouvait être deux ou trois fois par jour.
Et ça ne provoquait pas de grosses angoisses déjà chez lui, cette consommation?
Ça provoquait... lui disait que ça l'apaisait. Alors évidemment, il était complètement contre et c'était pas en ma présence. C'est très difficile d'évoquer ça avec un enfant.
Ouais.
Qui en plus dont il sait que ses parents vont avoir des réactions un peu épidermiques à ce niveau-là. Et ça provoquait, lui dit que ça le calmait, que ça calmait ses angoisses. Après, naturellement, on sait que ça en provoque la réalité. Et que
en
ça
tout
en
cas,
traîne,
ça peut en provoquer,
voilà,
oui.
Ça peut en provoquer.
Clairement.
Encore une fois, l'idée, je pense que ce n'est pas du tout le procès du cannabis.
Moi, non, mais alors
faire.
Je vous dis ça,
c'est
je vais
juste,
vous dire
voilà, c'est juste pour vous dire que pour certaines personnes, je pense que ça peut être extrêmement dangereux. Et je sais que pour d'autres, ça peut apaiser, mais pour certaines personnes, la prise de cannabis jeune peut vraiment provoquer des maladies extrêmement graves.
Alors, nous ne sommes pas là, bien évidemment, pour faire le procès du cannabis, même si je me positionnerai clairement pour que la consommation de cannabis soit enfin régulée et légalisée. Contrôlée parce que vous ne m'empêcherez pas de penser que votre fils, comme tout un tas de jeunes, en vienne à ce produit parce qu'il est interdit. Et que le jour où il ne le sera plus, comme en Hollande d'ailleurs, on verra une jeunesse beaucoup moins portée sur la chose parce qu'on sait que la jeunesse déteste les interdits. Mais on va pouvoir...
Moi j'espère, hein,
on va,
réellement
pardonnez-moi,
j'espère.
Pardonnez-moi juste, Christine. Ouais, on va marquer une pause, le temps d'écouter les informations de la nuit et on va pouvoir discuter de tout ça après le journal de la nuit. Vous restez avec moi, on se retrouve dans quelques instants.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Ce sont vos histoires de vie, vos témoignages, vos destins qui font cette libre antenne et qui font de cette libre antenne un moment particulier, un moment exceptionnel, puisque on vous écoute parler de vous, des vôtres, de votre vie. Et puis, on apprend de vous et de nous en même temps, en vous écoutant et en réfléchissant à tout ce que vous acceptez de livrer sur cette antenne. Comme Christine ce soir qui nous parle de son fils, qui est aujourd'hui à 25 ans, souffre depuis l'âge de 19 ans de schizophrénie. Christine, on évoquait donc cette consommation de cannabis. Je vous livrais mon idée par rapport à ça, qui était malheureusement qu'aujourd'hui, en interdisant... je vous dis ça parce que j'ai étudié, j'ai pas mal étudié, j'ai tourné et filmé... fait des films sur la schizophrénie et aussi sur la Hollande, la consommation de drogue et tout cela. Et il me semble important de le souligner parce que c'est vrai qu'en tournant avec de jeunes malades schizophrènes, il y avait toujours, pratiquement à chaque fois, une consommation de cannabis et qu'on sait que dans cette période... de la vie entre 16 ans et 18, 19 ans, on va dire jusqu'à 20 ans, on est propice à des angoisses et que le cannabis peut être un révélateur de ces angoisses et que je trouve dommage que cette jeunesse se lance dans tout ça parce que c'est interdit. Mais bon, c'est un débat, c'est un autre débat, mais ça me semblait important de le souligner. Votre fils, Christine, en fait, à 19 ans, il a déclaré quoi ? Il a déclaré tout de suite des hallucinations lorsqu'il a été hospitalisé ou c'était de l'angoisse ? Comment ça s'est passé exactement ?
Non, c'était clairement des hallucinations. Par exemple, alors c'est des hallucinations qui tout au long de la maladie peuvent évoluer, mais par exemple, quand il a été hospitalisé la première fois, oui. Il avait l'impression de voir des mouches voler avec des caméras pour rentrer, pour le filmer. Il avait l'impression d'avoir des bêtes qui rentraient dans son cerveau. Il avait, il avait différentes hallucinations de ce type. Il pensait être l'élu, choisi par tout le monde comme étant l'objet à sacrifier, l'être à sacrifier. Il y avait toute une sorte d'hallucination. Encore une fois, ça a pu évoluer dans le temps, mais ouais. C'était vraiment des ressentis extrêmement forts, extrêmement handicapants, extrêmement angoissants,
ouais.
Constants. Voilà, il a été très rapidement mis sous médicament, mais ça s'est poursuivi assez longtemps, notamment déjà pendant puisqu'il a continué à consommer du cannabis alors même que il était parfaitement informé des risques, etc. Donc il y a eu toute une période où il a continué poursuivre cette consommation.
Ouais.
Et il y a eu un nouvel épisode d'hospitalisation où pareil, il sentait que tout le monde l'attaquait. Bon, à un certain moment, il a effectivement stoppé cette consommation et les médicaments ont pu enfin commencer à faire un petit peu d'effet et à faire peu à peu, en tous les cas, baisser ses hallucinations et lui permettre de retrouver des moments de calme.
Mmh. Quel était le profil de votre fils ?
Alors, extrêmement brillant. Ouais, non, je dis pas ça. Mais extrêmement brillant dans le sens où il a plusieurs à chaque tous les ans on m'obligeait ou on me demandait de détecter savoir si c'était un enfant précoce il a toujours brillamment réussi à passer sans travailler puisque moi qui le côtoyais au quotidien je peux juste vous dire qu'il n'ouvrait pas un livre. Voilà, c'est quelqu'un qui a eu une mention bien à son bac ES sans réviser. J'avoue qu'il avait une façon de prendre les choses, une façon d'analyser les choses qui était extrêmement novatrice et très intelligente.
Prometteuse,
c'est quelqu'un
en tout cas,
de brillant. Ouais. C'est quelqu'un de qui est resté brillant parce que j'ai la chance, oui, il a la chance plus exactement, de ne pas voir ses facultés cognitives trop affectées par la maladie.
Oui.
Et donc, c'est quelqu'un qui, actuellement, est en Master 2 d'histoire médiévale à Nanterre.
D'accord.
Donc, qui a pu poursuivre, alors avec des épisodes, bien sûr, d'absence, mais qui a pu poursuivre ses études relativement facilement, en tous les cas. Alors... C'est quelqu'un vraiment, mais comme tous les schizophrènes, il y a vraiment des génies parmi les schizophrènes.
Oui, il y a un terrain, en tout cas, d'hypersensibilité en plus lié à l'intelligence qui est,
exactement.
Est souvent un terrain très riche. Vous, comment est-ce que vous avez vécu cette situation et comment vous y avez remédié ? Parce que c'est un tsunami hein, pour les parents.
Exactement. Alors, c'est un long chemin, c'est un long parcours.
Oui.
Alors, c'est un long parcours où déjà, y a un moment d'immense angoisse et de détresse parce qu'on ne connaît pas la maladie, on ne nous l'explique pas. Alors, on va grenouiller naturellement sur Internet et là, on trouve tout type d'informations qu'il ne faut surtout pas faire.
Non, surtout pas.
On vous en supplie.
Pour tout, hein, pour toute maladie d'ailleurs.
Pour tout, exactement. Pour toute maladie, parce que c'est vraiment une source d'angoisse extrêmement forte. Et les informations qu'on y trouve, il y a à boire et à manger. Donc, on est passé effectivement de les bras. Déjà, il a fallu que je sache ce que ça voulait dire parce que j'étais vraiment pas versée dans ce type d'affection, de maladie mentale.
Vous n'en aviez jamais trop entendu parler avant ?
Jamais entendu parler.
Ouais.
Donc, je ne savais même pas ce que c'était qu'un psychologue, c'est pour vous dire.
Ouais.
Je suis plutôt quelqu'un de plutôt cartésien, pied sur terre et pas paysanne, mais parce que je suis avocate. Mais en tous les cas, j'ai plutôt cette...
Tout s'était bien passé pour vous,
globalement. Tout s'était parfaitement bien passé. Il n'y avait pas eu d'incident de parcours hein, ni quoi que ce soit. Donc, il a fallu découvrir en fait ce que c'était, tout en gérant et bien sûr un fils délirant. Une grande angoisse parce qu'on ne comprend absolument pas ce qui se passe. Voilà, on ne comprend pas ce qu'il vit. Et du coup, on ne sait pas comment l'aider. Une énorme tristesse hein, parce que on n'avait pas... comme je pense que tout le monde qui découvre qu'il a un proche extrêmement proche puisque c'est un enfant malade, voir que finalement ça s'améliore pas et que en tous les cas au jour d'aujourd'hui certes c'est maîtrisé mais on n'en guérit pas. Donc revoir un peu ce qu'on avait imaginé pour son fils et imaginé pour nous.
Oui.
Donc c'est un long chemin tant dans l'acceptation de la maladie de son fils que dans l'acceptation de notre propre avenir ou notre propre reconditionnement de notre vie.
Qu'est-ce qui est le plus dur en tant que maman
Je pense que c'est lui. Franchement, mais je pense que tout parent vous dira, je serai prête à endosser cette maladie, alors même que combien elle peut être
terriblement angoissante,
etc. Ouais. Je préférerais mille fois être malade que, enfin, sauf que je serais un fardeau pour lui. Donc, à la réalité, je suis très 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 partagée, mais c'est vrai que le pire, c'est en tous les cas moi en ressenti, c'est pour lui. Donc il a fallu apprendre ce que c'était et trouver en tous les cas des aides, des associations, une association qui m'a permis de pouvoir l'appréhender quand il était en crise, lui parler, ne pas faire baisser ses angoisses et ne pas perdre le contact avec lui quand il a ses périodes de total délire. Et cette association et ces aides ont aussi permis de reprendre pied pour nous parce que quelque part c'est quelque chose qui nous pompe toute notre énergie, notre attention, et où on s'enfonce sans même s'en rendre compte en fait, c'est-à-dire qu'on est tellement dans le sacrifice, on est tellement tellement rivé sur notre enfant malade qu'on oublie nos autres enfants.
Le mot sacrifice est vraiment celui-là, vous avez raison. Permettez-moi de vous interrompre, mais toutes celles et ceux qui nous écoutent, il faut imaginer combien cette maladie, lorsqu'elle elle s'attaque à un enfant comme ça, un enfant, un jeune adulte de 17, 16 ans, 18, 19 ans, comme votre fils, combien c'est d'une violence extrême, parce que tous les parents que j'ai interviewés m'ont dit que c'était ce sentiment d'impuissance, c'est le mot que je cherchais, d'impuissance devant cet enfant à qui on essaie de parler, qu'on essaie de rassurer, et qui à un moment on va penser que ça va mieux et qui va être repris par ses délires et cette angoisse et cette paranoïa. Et c'est extrêmement éprouvant, bien évidemment, pour le malade, mais pour vous, parents, il faut vraiment être solide.
Il faut l'avoir vécu. Non, mais vous avez parfaitement raison. C'est c'est l'horreur.
Ouais, c'est l'horreur, c'est l'horreur.
C'est vraiment l'horreur. Hein. Je pense que c'est une des choses, des pires choses. Mais bon, il y a des maladies mortelles, donc il faut toujours. Elle n'est pas a priori mortelle, même si.
Non, et puis elle se soigne.
En tous les cas, elle se maîtrise et elle se stabilise.
Ouais.
Mais c'est vrai que les premiers mois, les premières années sont dévastatrices pour toute la famille.
Ouais.
Donc certes pour les parents, mais pour les frères et sœurs également.
Vous avez d'autres enfants ?
Voilà, j'ai une fille là qui vient enfin, après donc 6 ans, de commencer un groupe de parole, à participer à un groupe de parole.
Quel âge a-t-elle aujourd'hui ?
Elle a 23 ans.
Donc 3 ans de moins, enfin 2 ans de moins que
son
frère ? Oui,
2 ans de moins que Thomas. Ouais. Et en fait, elle vient, et elle me l'a avoué, elle m'a dit oui, quand tu m'en as parlé au début de la maladie de Thomas, de ses groupes de parole, de ses aides, du fait qu'il fallait que moi aussi, que je fasse cette démarche, mais je ne pouvais pas le faire, c'était trop violent, trop douloureux, et je ne pouvais pas le faire à ce moment-là. Et ce n'est qu'après ce temps de maturation, très clairement, qu'elle commence à accepter naturellement la maladie de son frère, mais également, elle, à rechercher de l'aide et du soutien. Parce que ces enfants-là, au-delà de la culpabilité qu'ils ressentent naturellement, je pense qu'à un certain moment, ils ont aussi du mal, eux, à s'engager, à construire dans leur
vie. Bien sûr.
Avec, ils peuvent avoir aussi pas de la haine naturellement, mais en tous les cas, tout est centré sur le frère ou la sœur malade, et plus sur eux. C'est-à-dire qu'on a vraiment tendance, alors c'est toujours, il faut toujours faire très attention, mais incontestablement, c'est sûr qu'on est plus attentif à la personne affectée, malade, qu'aux frères et sœurs.
Ouais, ouais.
Et il faut qu'elle arrive, et elle le sent, il faut qu'elle arrive à passer le cap et à s'engager elle-même, à construire elle-même sa propre vie, tout en ayant en ligne de mire le fait qu'un jour les parents partiront et que ce sera à elle d'assumer ou en tous les cas d'entourer la personne malade.
Alors si Thomas, bien évidemment, aujourd'hui va mieux, et vous sembliez dire qu'avec épisodes...
Il peut y avoir des épisodes dus au stress. En fait,
alors, justement,
ils sont très, très fragiles.
Parlons de votre quotidien aujourd'hui. Thomas est alors ce qu'on appelle stabilisé aujourd'hui. Est-ce que, comment va-t-il ?
Il est stabilisé dans le sens où il arrive à maîtriser, il peut avoir des interprétations qui lui sont très personnelles. Mais il arrive à les maîtriser. C'est quelqu'un qui, on a une vie familiale plus ou moins normale. C'est vrai que nous, on est toujours un peu dans l'appréhension de ce qui peut se passer au cours d'une réunion ou d'un repas familial, mais ça se passe relativement bien. Il y a une époque où c'était même pas envisageable.
Bien sûr.
D'avoir un Noël avec 10 personnes à table ou un repas d'anniversaire.
Là, à l'approche des fêtes, ça va être possible,
c'est vraiment, maintenant c'est de l'ordre, c'est quelque chose qu'on arrive à faire, c'est-à-dire qu'il y aura un repas de Noël, c'est quelqu'un qui maîtrise en fait, il arrive à maîtriser ses angoisses.
Comment est-il aujourd'hui justement par rapport à ses angoisses ?
Il les a, le problème c'est que pour les maîtriser, au-delà des médicaments, il fume beaucoup.
Il y
a un tabagisme très important.
Ouais, ouais.
Oui, il ne fume plus de...
Non, il a compris là.
J'arrête. Ouais. Je vais me tuer sinon.
Il a compris.
Il a totalement compris, effectivement.
Oui,
même que parfois, quand il sort avec des amis, parce qu'il a réussi à maintenir quand même, enfin pas maintenir, hein, mais il a des amis qui lui en sont extrêmement fidèles et participent à des fêtes d'anniversaire, etc.
Des gens qu'il a gardés d'avant.
Voilà, des gens de son lycée où il a gardé des liens extrêmement forts.
C'est extrêmement important.
Qui ont compris ce qui lui est arrivé.
Ça a dû être très violent pour eux aussi, hein, je suppose.
C'est très violent parce qu'en plus, il se trouve que c'était des amis dont certains étaient de confession juive. Et en fait, mon fils a été attaqué, a eu des pensées antisémites alors que naturellement, c'était absolument pas le cas.
Ouais,
qui l'ont envahi. Ouais.
C'est assez incroyable, ce dont vous parlez, parce que souvent, des épisodes... Beaucoup de malades sont touchés par ce type de délire antisémite alors qu'ils n'ont jamais développé le moindre...
Ils n'ont jamais, qu'ils ont eu toujours des amis juif. D'ailleurs, il en a plus que, il a toujours eu beaucoup plus d'amis juifs que d'amis d'autres confessions.
Ouais, ouais.
Enfin voilà, c'est vraiment des gens avec qui il s'entendait, et qui étaient tout le temps à la maison, qui avaient qui partaient en vacances.
C'est la peur, c'est le diable, cette maladie.
C'est monstrueux pour lui. Ouais. Et il a préféré même se mettre en retrait parce que attaqué par ses idées antisémites dont il était mais totalement étranger et qui le rendait fou, il a préféré effectivement se mettre en retrait. Maintenant, c'est vraiment ce genre de pensée, il les a beaucoup moins et il arrive vraiment à les maîtriser.
C'est-à-dire il est soigné comment ? À quelle cadence aujourd'hui ?
Il a une prise de médicaments quotidienne.
Ah, d'accord, il n'a pas une injection mensuelle ?
Non, en fait, non, il n'en est pas encore là. Et surtout, le médicament qu'il prend actuellement, il a eu 3 fois des changements de traitement. Il a changé 3 fois de traitement et le médicament qu'il prend, en fait, ne se prend pas sous forme d'injection.
D'accord, mais aujourd'hui, il est
alors, il est compliant.
Il est
parce que vous savez qu'un des problèmes de cette maladie et pourquoi il y a aussi des gens qui repartent en crise, c'est que une fois qu'ils vont mieux,
mais ils arrêtent,
les médicaments, ils ne se considèrent pas comme malades, type prises de médicaments qu'on doit prendre diabétiques ou des choses comme ça. Donc en fait, ils arrêtent leur traitement. C'est un peu le défaut d'insight, c'est-à-dire qu'ils ne se voient pas malades et du coup, ils ne voient pas pourquoi ils devraient prendre des médicaments.
Bien sûr.
Alors, c'est très ambigu parce que Thomas vous dirait, s'il n'était là, qu'il n'est pas malade, mais tous les soirs ou tous les matins, il me demande « Est-ce que tu m'as donné, est-ce que j'ai bien pris mes médicaments aujourd'hui ?» Donc, il ressent quand même, je dirais, le besoin de les prendre pour apaiser ou pour l'apaiser et pour lui permettre d'avoir une vie à peu près normale.
Il n'y a pas trop d'effets secondaires parce que souvent,
il y a des effets secondaires, alors ça dépend naturellement des médicaments, mais il y a eu toute une période où il tremblait, il y a des tremblements relativement importants, par certains où il y a même un peu de bave, d'autres où une bouche a séché, et surtout dans la plupart des cas, une prise de poids relativement importante.
Ouais.
Donc lui, ses crises d'angoisse, c'est le tabac, et par période, ça peut être aussi l'alcool. Donc c'est vraiment des gens qui ont des conduites addictives, en fait, pour calmer leurs angoisses, que les médicaments ne parviendraient pas à totalement juguler.
Il est donc stabilisé,
une surveillance, il n'est pas... Alors, toute là, ça va être la prochaine période de ma vie, ça.
Ouais.
Il n'est pas encore stabilisé au point de pouvoir vivre seul.
Oui, parce que j'allais vous demander.
En totale autonomie, donc ça va être... Mais enfin, entre 1993, novembre 1993 et novembre 2019, les progrès ont été très importants. Donc, je ne perds pas espoir d'arriver à ce qu'il arrive à vivre seul un jour.
Comment, j'étais en train de penser aux vacances, hein, je ne sais pas pourquoi j'y pensais, mais ça, comment vous avez fait depuis 6 ans ? Il vient
alors,
tout le temps avec vous, Thomas ?
Oui, il vient tout le temps avec nous. Voilà, on part, moi pour ce qui me concerne, je pars effectivement à l'étranger, mais sur des courtes périodes.
Oui.
Voilà.
Respirer un peu.
Respirer, mais avec lui, hein, avec lui, sa sœur.
Oui.
Voilà, qu'il est aussi, qu'il est entre guillemets encore des perspectives et ça lui fait extrêmement plaisir aussi parce que ce sont des gens vraiment qui, quand ils ne sont pas en crise,
ils sont comme nous.
Voilà, ils sont comme nous, ils ont les mêmes besoins et ça lui fait extrêmement plaisir. Après, ce sont des courtes périodes, je ne partirai pas en Thaïlande un mois, c'est ce que je veux dire.
Parce qu'il se fatigue vite,
voilà,
je crois. Hein.
Petit 1, il se fatigue extrêmement vite. Petit 2, quand vous êtes à l'étranger et que vous commencez à voir que votre gamin est un peu habité ou proche d'une crise, etc., vous n'avez pas nécessairement les ressources à disposition pour appeler le CMP en disant qu'est-ce que je fais.
Ouais.
Donc nécessairement, ce sont des petits voyages en Europe, parce que l'avion, plus de 3 heures, c'est inenvisageable, ça pourrait créer de l'angoisse. Donc des petits voyages. Après, les vacances, ensuite, c'est dans la maison familiale, entouré avec peu de personnes, c'est-à-dire voilà, les grands-parents, c'est tout, sans trop de monde autour, et c'est...
du calme.
Tout est fait pour, entre guillemets, l'apaiser et avoir un environnement extrêmement bienveillant autour de lui.
Christine, est-ce que vous pensez aujourd'hui avoir vécu le pire, finalement, vous en tant que parent et pour Thomas, lui. Est-ce que c'est derrière lui? Est-ce qu'il a compris beaucoup de choses le long de son, le long de ce parcours de patient, hein, de malade de la schizophrénie? Est-ce qu'il a, il a acquis déjà cette vérité qu'il est malade, hein, cette réalité qu'il est malade et qu'il devra se soigner à vie? Est-ce que vous sentez que...
Je sens que c'est... on est quand même... Donc on est à 5-6 ans, donc vraiment à cette période un peu charnière. Il accepte... Il est... parce que moi, je tourne tout... Alors j'ai cette capacité, en tous les cas, de prendre ou de tourner un peu les choses...
En dérision,
en lui disant « Mais au fait, tu te rappelles quand tu voyais les mouches voler, que tu croyais qu'elles te prenaient en film et que tu étais l'élu ?» Enfin voilà, j'ai très rapidement, en tous les cas, peu à peu, et ça le fait rire. Hein. Oui. Et il dit « Oui, c'est vrai, ah oui, là, j'étais complètement perché.
Bah, » Mettez-vous à sa place en même temps. Hein. Être
non, non, mais tout
coup,
à fait. Je dis « Et c'est sa réalité. » C'était sa réalité.
Ouais, ouais.
C'était sa réalité. Ouais.
Parce que moi, j'ai un de mes amis, vous voyez, j'ai un de mes amis à qui c'est arrivé. Et on s'en marre maintenant, même s'il est encore un peu fragile aujourd'hui, mais bon, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mais je lui dis à chaque fois, dis donc, c'est du boulot. Hein. J'ai vu quand t'étais responsable de l'univers.
C'était, tu te souviens quand t'étais... Ouais, exactement.
Et là, c'est, vous imaginez quand vous y croyez et que vous êtes en train de regarder le journal de 20h et que c'est normalement vous qui devez régler tout ça. On s'en marre. Il arrive à rigoler de ça?
Oui. Souris, etc. Et ça dépend, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'il arrive à avoir cette vision de l'évolution. Et souvent, je lui dis, tu te rends compte, Thomas, d'où on vient?
Mais oui, c'est important.
Tu te souviens,
justement. Oui.
Et tu vois, que tu... parce que parfois, il me dit, oui, non, là, je suis trop fatigué, j'en peux plus, les études, le truc. Mm-hmm. Je lui dis, ok, tu feras en 2 ans, c'est pas un problème, tu feras ce que tu voudras, prends ton temps, il n'y a pas de souci. Mais souviens-toi d'où on vient et comment tu étais en novembre 2013.
Et surtout de réaliser. À partir du moment où il réalise que les petites mouches avec les caméras qui pénétraient à l'intérieur de lui, c'était du pur délire, c'est que déjà il va beaucoup mieux.
Il a une distance, ou en tous les cas, il a un regard sur ce qu'il a vécu, qu'il mette un terme maladie ou pas, ou qu'il y arrive, et ça dépend des jours en fait.
Ouais.
Mais sur son vécu, oui, qui lui permet en fait, quand il commence à monter un peu, à remonter un peu en tour ou à être très très angoissé, de casser, parce que en fait l'idée c'est quand ils ont c'est à nouveau ces montées d'angoisse ou ces montées de stress, d'arriver à le tirer vers autre chose, comme nous tous d'ailleurs, hein. Je pense que quand on a une angoisse, il faut juste essayer de penser à autre chose, mais c'est vrai que il a cette conscience là, en tous les cas, de ce qu'il a vécu, et je vous dis, la conscience de sa maladie et de la prise de médicaments toute sa vie. Déjà, j'espère que la science va faire des progrès, mais en tous les cas, de la prise de médicaments, il ne la formalisera pas spontanément, mais il va me demander tous les matins si je lui ai bien filé ses médocs.
D'accord. Il n'y a pas, en fait, pour lui aujourd'hui, parce que moi, je pense à vous, évidemment, et à lui aussi, parce que...
Lui, il réclame, hein.
Oui, mais non, mais je vous l'abordais
de
côté. Bah voilà, justement, le jour où il vivra seul, il n'y aura plus maman pour lui dire oui, tu les as bien pris ou non.
Non, mais il y a... Voilà, c'est... Lui réclame de vivre seul, naturellement, puisqu'il voit tous ses petits copains, ses copains, etc. Et puis voilà, il a 25
copine.
Ans.
Pas de copine.
Pas de copine, non, malheureusement. Et c'est aussi un aspect...
difficile.
C'est quelque chose, c'est un vrai manque pour lui, oui, ça c'est clair. Et donc oui, lui, il réclame une certaine autonomie dont je sais qu'elle ne sera possible que le jour où il sera en mesure d'avoir une gestion sérieuse et vraiment rigoureuse de sa prise de médicaments.
Mmh. En tout cas, vous n'êtes pas loin. Ça reste sans doute le détail le plus important pour vous à mettre en place, à régler. Mais le jour où vous le sentirez assez solide pour vraiment prendre ce traitement, parce que tout dépend de ça aujourd'hui, cette stabilité, elle dépend de ce point précis-là. En tout cas, merci beaucoup, Christine, d'avoir pris de votre temps pour nous évoquer votre expérience de parent d'un enfant souffrant de schizophrénie. Mais bon, je me réjouis.
Merci à vous aussi de m'avoir écouté.
Je suis là pour ça, moi. Mais je me réjouis qu'à l'approche des fêtes de Noël, que Thomas soit avec vous et que vous soyez réunis tous, c'est tout de même ça, c'est la victoire là de cette famille.
Oui, pour ça, bravo. C'est sûr que c'est une énorme satisfaction et une énorme joie pour nous.
Bah écoutez, embrassez pour nous le reste de votre belle famille et puis passez de bonnes fêtes.
Merci vous aussi.
Bonsoir Christine, au revoir.